Voilà, bonjour et bienvenue à ceux qui veulent, pendant quelques dizaines de minutes, préparer le premier dimanche de l'Avent, qui commence dans quelques dizaines de minutes aussi. Il ne s'agit pas de faire une première homélie, il s'agit de préparer, afin de bien recevoir ce que Dieu veut nous donner dans ces quatre semaines particulières. Alors, il y aura trois samedis où nous partagerons ce travail. Trois parce que le 13 décembre, à Notre-Dame, il y a la béatification des 50 martyrs du STO en 1944 et 45, et c'est une célébration. On ne peut pas y assister sans invitation parce qu'il y a beaucoup de monde, les familles notamment, ils sont 50, mais on peut le regarder sur KTO ou à l'entendre sur Radio Notre-Dame ou RCF. Mais donc le premier, le deuxième et le quatrième dimanche de l'Avent seront travaillés. Ici, à Notre-Dame des Victoires, les paroissiens, vous êtes fidèles, vous êtes habitués aux travaux de Lectio Divina qui sont proposés par les sœurs. C'est la même chose que nous faisons, mais tout simplement appliquée au dimanche. Alors, si vous voulez bien rentrer dans la démarche, elle n'est pas si facile que ça, mais il faut y consentir. La parole de Dieu nous questionne. Et nous sommes invités, pour être à la hauteur de la démarche de Dieu qui veut nous parler, nous sommes invités, nous aussi, à poser des questions. Le modèle de quelqu'un qui pose des questions à Dieu qui lui annonce quelque chose, c'est Notre-Dame, c'est la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge, s'entend déclarer une révélation par l'ange Gabriel, elle pose des questions avant de donner son assentiment. Il n'y a aucune gêne, il n'y a aucune insolence à poser des questions à Dieu. C'est même Dieu qui nous demande de poser des questions. Rappelez-vous comment fonctionne le plus grand théologien de l'Église catholique, saint Thomas d'Aquin. Il pose toujours des questions, et y compris avec des objections. Vous êtes bien assis, hein ? Dieu existe-t-il ? Il semble que non. Voilà, et il va argumenter pour contrer la facilité et permettre d'entrer plus avant dans la vérité. Et on va voir que dans l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent, il en est ainsi. Je vais le lire et souligner les questions qu'on est en droit de se poser. Et ce n'est pas des questions rhétoriques pour faire semblant, je peux vous assurer que je suis le premier à me poser des questions et d'entrer dans le jeu de la compréhension. En ce temps-là, alors il faut déjà se demander qu'est-ce que c'est de ce temps-là, vous voyez, c'est le temps de Jésus, mais où en est-on dans la vie de Jésus? Je rappelle que nous commençons ce soir ou demain, nous commençons la lecture toute l'année de l'Évangile selon saint Matthieu. Donc déjà, chacun est invité à se rappeler un peu dans sa mémoire de quoi se souvient-il dans l'Évangile de saint Matthieu, qui ne fonctionne pas comme celui de saint Marc, ni de saint Luc, ni de saint Jean. Et qu'est-ce qui est propre à saint Matthieu? Qu'est-ce que nous aimons, par exemple, de saint Matthieu? Ou bien qu'est-ce que nous aimons moins? On est invité peut-être, en regardant un évangile ce soir, de parcourir les 28 chapitres et de repérer ce que nous connaissons et ce que nous connaissons moins, et donc qui est à travailler. Comme c'est le premier dimanche de l'Avent, on est peut-être invité aussi à se dire, à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on a? Comment ça commence? On va le voir, mais comment ça se termine? Nous avons tous expérimenté, ce n'était pas facile, dimanche dernier, que la lecture de l'Évangile selon saint Luc se terminait par... Dimanche dernier, c'est il n'y a pas longtemps, hein. Enfin si, il y a quand même 6 jours. Le triste roi, mais qu'est-ce qu'on lit pour le triste roi de l'année saint Luc? C'était le dialogue entre Jésus au Golgotha et le bandit. qui le reconnaît innocent. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Incroyable. Voyez ? Et ça, c'était la fin de l'année. C'est pas facile de lire un tel évangile. On commence Saint Matthieu ce soir ou demain. Quel est l'évangile de la fin de l'année liturgique ? Quand c'est l'année de Saint Matthieu, nous le connaissons bien, mais il faut savoir que nous avons un an pour nous préparer. Il s'agit du jugement dernier de l'ensemble de l'humanité. Et ce jugement, on peut déjà le dire maintenant parce que ça nous servira tout à l'heure, le jugement de Dieu n'est jamais arbitraire. Dieu est juste. Dieu est juste. Et sur quoi serons-nous jugés ? Qu'est-ce qui ouvre la porte du paradis ? C'est extrêmement simple. Jésus dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais malade, vous m'avez soigné, j'étais seul ou étranger, vous m'avez accueilli ou accompagné, venez les bénis de mon Père. Vous voyez, en soi, ce n'est pas très compliqué. Si on trouve ça étrange, je dis tout simplement, nous avons un an pour nous préparer. Mais il faudrait presque pouvoir se dire chaque dimanche, ah, nous sommes en route vers ce jugement dernier qui est à la fois si simple et si riche en même temps. Voilà. Donc en ce temps-là, nous sommes à la fin de la prédication de Jésus. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Mes amis, ça paraît simple, qu'est-ce que la venue de Jésus dans le monde ? Le verbe « venir », qui est si simple en français, n'est pas simplement comme « je viens à Notre-Dame des Victoires » ou « je viens à la messe » ou « je viens dans ma maison » ou « je pars en voyage ». « Venir » dans la Bible connote l'idée d'une révélation. Venir vers quelqu'un, c'est se faire connaître. Et Dieu est toujours qualifié avec le verbe, à la fois le verbe « être » et le verbe « venir ». Les deux verbes sont très importants. Je suis celui qui est, Dieu est l'être par excellence, Dieu est le sommet, la plénitude de ce qui existe, de l'être, l'être parfait. Mais ça ne suffit pas, dans l'Écriture, ça ne suffit pas pour l'identifier. Dieu est celui qui est dans la plénitude, mais il est celui qui vient. Où Dieu peut-il venir ? Eh bien, précisément, dans le monde qu'il a créé, puisque dès le commencement, Dieu crée le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Donc, non seulement Dieu est puissant, non seulement Dieu est le Créateur, mais il n'y a pas d'arbitraire en Dieu et il y a une révélation, il y a une alliance, il y a un lien de proximité entre Dieu et le monde qu'il crée et qu'il sauve. Alors, quand peut-on identifier des venues de Dieu ? Une première venue de Dieu, et d'ailleurs en Dieu on peut mettre la personne de Jésus, son Fils éternel, son Verbe éternel. Dieu vient dans le monde au fur et à mesure qu'il parle. Souvenez-vous, dans le Credo, nous confessons, il a parlé par les prophètes. Les prophètes, c'est très large. Adam et Ève sont des prophètes. Noé est un prophète, Abraham, Moïse, David, Isaïe, les martyrs d'Israël, les apôtres, les saints sont tous des prophètes. Il y a d'abord l'idée que Dieu vient dans le monde et que Jésus vient dans le monde par les prophètes. Il est annoncé, il est préparé. On va se demander comment. Une deuxième venue est repérée. La deuxième venue, c'est ce que nous fêtons à Noël. Il vient dans la chair. Ayant parlé et agi, fait des alliances, Dieu lui-même, comme on le chante, Dieu lui-même vient nous sauver. Il ne se contente pas d'envoyer quelqu'un, il vient lui-même. Vous voyez ? C'est un petit peu tout l'enjeu de ce que le pape Léon XIV est en train de faire pour nous. Hein. Il est en Turquie, mais c'est pas pour les Turcs. Oui, enfin, si, c'est pour les Turcs, bien sûr. Mais c'est aussi pour nous qui sommes ici rassemblés. On peut s'informer par les radios, la télévision, les journaux. Le pape célèbre grandieusement le 1700e anniversaire de la confession de foi de Nicée, donc près de Constantinople, où nous avons un résumé de la foi qui sert de communion entre toutes les grandes églises chrétiennes, nous les catholiques, mais aussi les protestants, mais aussi les orthodoxes, et c'est le socle sur lequel nous nous tenons et voulons nous rassembler de mieux en mieux afin de porter un juste témoignage au monde. Et il est dit dans le credo que, et ça a été rectifié dans la version française il y a quelques années seulement, on disait de même nature que le Père, maintenant on reprend le texte du Concile lui-même, le Concile de Nicée en 325, le Fils est consubstantiel au Père, il ne fait qu'un avec le Père. Pas la même personne, mais la même nature. Mais ça fait une communion très forte. Pour faire un peu de théologie, je vous cite un théologien que j'aime bien pour expliquer cela. Il disait dans ses cours, deux poireaux sont de même nature, ils ne sont pas la même substance. Deux poireaux, c'est deux poireaux. Voyez ? Le Père et le Fils, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, c'est un seul Dieu, ce n'est pas deux dieux, comme les deux poireaux. Et ça m'a toujours... n'est-ce pas ma sœur hein? Vous voyez, c'est très simple en fait, mais il s'agit d'être précis dans les mots. Ça veut dire que à Noël, nous préparons, et il faut bien 4 semaines pour ça, nous préparons l'accueil de la venue de Dieu lui-même sous les traits, non pas d'un ange, non pas d'un surhomme, mais sous les traits d'un petit enfant qui naît d'une femme. Il faut se rendre compte, on en parlera plus tard, de ce que représente l'enfantement par une femme pour produire, aimer, montrer ce qu'est la vie et l'amour. Dieu prend ce chemin pour venir à nous. Oui. Donc Jésus est venu dans l'Ancien Testament, Jésus vient comme l'enfant de la Vierge Marie. Ensuite, il meurt sur la croix, il ressuscite le troisième jour, il reste en tant qu'humain toujours, ressuscité 40 jours avec les apôtres, et puis il disparaît, il n'est plus visible, il n'est plus sensible, ce qui ne l'empêche pas d'être présent. Alors comment Jésus, depuis l'ascension, continue de venir parmi nous? Eh bien, on n'est pas n'importe où, on est dans une église. Chaque fois que nous célébrons un sacrement, la messe, mais la confession, mais le baptême, mais la confirmation, mais le mariage, mais etc., l'onction des malades, c'est une manière pour Jésus de venir à nous. Il y a un mot, mes amis, un mot très important que le pape François nous a appris et qui est très simple, c'est les sacrements comme étant une rencontre. Alors, une rencontre avec Dieu qui vient à nous en Jésus-Christ et dans l'Esprit-Saint, ça veut dire deux choses. Pour une rencontre, il faut être deux. On parle très souvent de la présence réelle de Jésus-Christ dans les sacrements et dans le sacrement de l'Eucharistie. C'est une présence sacrée et parfaite. Oui, mais ça ne suffit pas. À cette présence que Dieu nous accorde, il faut aussi que nous soyons présents. Et ça fait une rencontre. C'était le pape Saint Jean-Paul II qui disait « La présence de Dieu, ce n'est pas tellement un problème. Dieu est présent comme il veut, il est assez grand pour être présent. Mais la vraie difficulté, et là nous sommes invités à nous réveiller, c'est notre présence à Dieu qui vient à nous, afin de produire du fruit. » afin de produire du fruit. Alors, Jésus vient depuis 2000 ans dans les sacrements, il vient aussi dans tous les gestes de service, dans tous les gestes de charité, dans tous les gestes de solidarité, de bienveillance, d'après ce commandement qui résume tous les autres, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Le « comme je vous ai aimé » n'est pas simplement un modèle, il dit une présence. Que nous le sentions ou non, que nous soyons conscients ou non, que ce soit une expérience ou non, si nous sommes rendus capables de bien faire, c'est parce que Jésus nous en donne la force. Et comment nous donne-t-il la force? Par sa présence. Nous ne le voyons pas, mais nous sommes invités, c'est peut-être un effort pendant l'Avent, à discerner les indices de la présence de Jésus dans notre vie. Et donc c'est la troisième venue, je répète, l'Ancien Testament, l'incarnation de Noël jusqu'à l'Ascension, et dans la vie des chrétiens et de l'Église et de tous les hommes et femmes de bonne volonté, Jésus vient par son Esprit Saint pour transformer notre existence et l'orienter vers ce qui est juste, saint, lumineux, beau et plein d'amour. Et il y a encore une quatrième venue, c'est la venue dans la gloire, à la fin des temps, à la fin de l'histoire, lors du jugement général et de ce qu'on appelle la fin du monde, Jésus viendra de manière visible. Mais que ce soit dans l'Ancien Testament, à Bethléem, à Jérusalem ou en Judée, dans la charité vêtue et partagée, ou dans la gloire de la fin des temps, c'est le même Jésus. Et lorsque Jésus nous dit dans l'Évangile, lorsque saint Matthieu nous dit « Jésus parlait à ses disciples de sa venue », nous sommes invités à admettre qu'il y a ces quatre degrés et il faut les recevoir tous ensemble. Je m'appuie sur l'Ancien Testament, je m'appuie sur la vie de Jésus et l'exemple qu'il a manifesté, je m'appuie sur la vie de l'Église quand elle célèbre les sacrements et nous donne l'Évangile, je m'appuie aussi sur ce qu'on appelle les fins dernières. Un jour, je mourrai et je serai jugé par Dieu. Et ça doit devenir, non pas une menace, ça doit devenir un véritable désir, une bonne nouvelle, chic. Je vais enfin voir et comprendre quelque chose. Il faut bien avouer qu'on vit un peu comme des taupes. Vous voyez, ce n'est pas un compliment, mais encore une fois, je suis la première taupe, vous voyez, à vivre, à ne pas me rendre compte de ce qui se passe. Il y a des lieux favorables. J'avoue que Notre-Dame des Victoires est un lieu où on sent un peu la présence, l'amitié, l'esprit de prière. Notre-Dame de Paris, où je travaille souvent, c'est aussi un endroit assez intéressant. Mais voilà, on n'y voit pas grand-chose. Un jour, nous verrons tout. Voilà. Et on peut s'attendre alors à une surprise, on va voir pourquoi, mais la surprise, grâce à Dieu, elle peut tourner dans le bon sens. Alors, je continue mon évangile, enfin l'évangile de ce dimanche. En ces jours-là, avant le déluge, nous remontons à l'Ancien Testament, on mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui a fini par les engloutir. Telle sera ainsi la venue du Fils de l'homme. Et Jésus continue en disant, « Vous ne savez pas quel jour, et donc veillez, car le Seigneur vient. » Alors il le dit dans un autre évangile, « Il vient comme un voleur. » Je lis le verset, « Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé. » Mes amis, il faut qu'on réfléchisse et avouer que ça pose une question. Pourquoi et comment Jésus se compare-t-il à un voleur? Ce n'est pas très flatteur. On n'aime pas les voleurs. Alors, il y a la dimension de surprise qui nous invite à la vigilance. Mais est-ce qu'on peut prendre au sérieux la notion de Dieu qui vient comme un voleur? On l'a dans d'autres évangiles, notamment l'évangile selon saint Luc. Est-ce qu'on peut demander à Dieu un peu de lumière pour se demander comment vient-il comme un voleur? Alors, un voleur, rappelez-vous le vol du musée du Louvre, il y a un mois, et ça a fait parler tout le monde, et c'était une surprise générale. Et on se demande, mais ça avait l'air si simple, comment n'a-t-on pas empêché un tel méfait? Eh bien, dans le discernement de la rencontre avec Dieu, il faut aussi qu'on se demande, mais comment restons-nous, pouvons-nous rester aussi sourds, aussi aveugles, aussi indifférents aux signes que Dieu vient nous donner? Et d'un autre côté, il faut aussi considérer que Dieu qui vient à nous veut nous prendre au sérieux. Il ne nous prend pas pour des gamins mal élevés, il nous prend pour ceux qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Et donc j'en appelle, avec la vigilance qui est dans la bouche de Jésus, j'en appelle justement à ce désir d'être attentif et cette dignité qui consiste à dire « et si j'étais à la hauteur ?» Alors, avons-nous des indices pour comprendre de quoi il faut se méfier? Eh bien, reprenons celui que Jésus nous donne. Il en sera, dans la venue du Fils de l'homme, comme dans les jours de Noé. Alors, je fais une hypothèse. Je pense que la lecture de la parole de Dieu, notamment de l'Ancien Testament, mais aussi du Nouveau Testament, est souvent rempli de pièges ou de malentendus. C'est-à-dire qu'on croit comprendre facilement et immédiatement ce que cela veut dire, et on se trouve pris au piège parce que c'est plus malin qu'on ne l'imaginait. Appliquons au jour de Noé. Alors, qu'est-ce qui est le plus célèbre dans le récit de Noé? Je pense que si nous devions dire un seul mot, on va dire c'est le déluge. D'ailleurs, Jésus fait bien allusion à ce déluge. Bon, dans notre imagination, au bon sens du terme, lorsque nous voyons soit le texte, soit une image qui représente la scène du déluge, qu'est-ce que nous ressentons? Comment comprenons-nous le déluge? Habituellement comme une catastrophe. Il a noyé tout le monde, sauf 8 personnes. Ça n'est pas beaucoup. Mais est-ce que Dieu se présente simplement comme un père fouettard, comme quelqu'un qui regarde ce qui se passe dans le monde, qui trouve que ça ne va pas bien et qui envoie un déluge pour se débarrasser de tous les méchants? Et ça ne marche pas. On voit bien d'ailleurs que Dieu continue à maintenir le monde dans son histoire et dans son existence et ne nous empêche pas, alors heureusement ou malheureusement, de mal faire, même s'il nous inspire de bien faire. Et comme dit saint Paul, le mal que je ne veux pas faire, ben, je le fais quand même, et le bien que je voudrais faire, ben, je ne le fais pas toujours. Mais Dieu maintient le monde. Alors, je vais vous raconter comment les anciens pères de l'Église interprétaient le récit du déluge pour mieux faire percevoir dans ce récit, non pas la brutalité et la violence, mais la bonté de Dieu et la justice de Dieu. Justice au sens de la justesse, en disant « il a bien fait ». D'abord, où pensez-vous que Noé a construit son bateau? Alors, les pères de l'Église disent, il l'a construit au sommet d'une montagne. Allez donc construire un bateau au sommet d'une montagne. Alors, évidemment, Noé passait pour un cinglé. Qu'est-ce qu'il fait, le père Noé, à construire un énorme bateau sur une montagne? Mais vous sentez le côté génial de cette décision? Quand l'eau a commencé à tomber, le dernier endroit où il y avait de l'eau, c'était au sommet de la montagne, là où était le bateau. C'est-à-dire que le bateau était ouvert et disponible à tous ceux qui voulaient. Ils avaient le temps, ils voyaient le bateau, ils voyaient l'eau monter. S'ils ne sont pas montés dans le bateau, c'est qu'ils ne le voulaient pas. C'est pas qu'ils ne le pouvaient pas, ils ne le voulaient pas. Et vous sentez combien Dieu nous renvoie, non pas à un jugement arbitraire pour nous faire peur, mais il nous renvoie à notre conscience. Et ça, c'est Jésus qui l'a redit dans l'Évangile selon saint Jean. Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Il n'est pas venu pour condamner, mais pour éclairer. Et le jugement vient comme une lumière qui vient nous donner la conscience de ce que nous faisons ou de ce que nous pouvons faire. Les cartes sont dans notre main. Et Noé invitait tous les habitants du monde à monter dans son bateau. Et ceux qui sont montés ont été sauvés. Ce qui fait que, à quel moment, dans quel sacrement parle-t-on de l'eau du déluge? On en parle au baptême. Quand on bénit l'eau d'un baptême, on rappelle l'eau du déluge, comme on rappelle l'eau de la mer Rouge, comme on rappelle les eaux du Jourdain, comme on rappelle le symbole de toutes les inondations, mais non pas dans un côté de terreur et de menace, mais l'eau qui désaltère, l'eau qui porte la vie, l'eau qui apporte un renouvellement quand tout était desséché. Et au fond, quand on lit le récit du déluge, je vous rappelle dans la Genèse des chapitres 6, 7, 8, 9, il faut recevoir ce récit comme une révélation de Dieu qui veut sauver l'humanité tout entière et non pas qui vient ou qui viendrait pour la condamner. Mais comprendre cela, entrer dans ce sens, c'est un peu comme fait le voleur. Ben, on s'y attendait pas. Le premier réflexe, la première idée, elle n'était pas bonne. Il fallait creuser un peu plus loin. Il fallait chercher, il fallait persévérer. Il faut avoir un petit peu d'audace pour recevoir cette parole de Dieu, non pas comme une menace, non pas comme une source de peur, mais au contraire comme une consolation. Oui, Dieu vient à nous et nous donne tous les moyens dont nous avons besoin pour que notre existence se déroule sous le regard de Dieu et de notre prochain, avec clarté, avec persévérance, avec joie, avec bonheur. Oui, au début ça fait peur, et d'un autre côté, il y a une magnifique consolation. Et que représente Noé et sa famille? Ils représentent l'humanité tout entière. Non pas quelques-uns qui auraient été simplement mis à part de manière exceptionnelle ou, encore pire, arbitraire, mais comme ce vers quoi Dieu nous dirige, ce vers quoi Dieu nous conduit. Et Dieu est le bon berger, Dieu est le bon pasteur, et il conduit toute l'humanité vers ce qui est bon et ce qui fait du bien. Encore faut-il discerner, croire, accueillir, se laisser disposer, encourager, persévérer vers ce bien. Et surtout, ne pas croire que nous serions seuls et abandonnés à nous-mêmes. Pour justifier l'hypothèse de lecture que je fais, au moment, avant même que l'eau commence à tomber pendant 40 jours et 40 nuits, Dieu annonce qu'il va faire avec cette humanité une alliance. La première fois dans la Bible que nous avons la révélation d'une alliance, c'est-à-dire d'un contrat, c'est-à-dire d'un partenariat entre Dieu et l'humanité, c'est au moment du déluge. Si Dieu veut entrer en alliance avec notre humanité, il ne va pas la détruire. Au contraire, il va la relever, il va la mettre en état de recevoir, de participer à cette alliance. Et Dieu s'engage par serment à maintenir cette alliance. Et il le fera jusqu'au bout sur la nouvelle alliance qui sera conclue en Jésus. Alors même que l'on récuse et que l'on repousse l'offre de Jésus, ça n'empêche pas Dieu, en Jésus et dans l'Esprit Saint, de poursuivre son projet de bienveillance envers ceux, c'est-à-dire envers nous, qui, d'un premier mouvement, n'y comprenons rien. Alors, comme on n'y comprend rien, Jésus vient, Dieu vient, l'Esprit Saint vient comme un voleur. Il vient quand on ne s'y attendait pas. Et tous les grands personnages de la Bible sont à lire à la même enseigne. On pourrait, donc, avec Noé, ça marche. Oui. Le déluge, ce n'est pas une révélation de Dieu qui punit, c'est la révélation de Dieu qui sauve. Abraham, vous voyez, qui est mis à part, ce n'est pas quelqu'un qui est sauvé tout seul. Non, en même temps qu'il est mis à part, en lui seront bénies toutes les familles de la terre. Et à travers Abraham, c'est vraiment Dieu qui vient bénir l'humanité tout entière. Non pas un contre l'autre, mais un pour les autres. Et Abraham devient le père de tous les peuples. C'est énorme. On pourrait se dire, tiens, Abraham, choisi par Dieu, va être le chouchou de Dieu. Quelle chance il a, ça va lui faciliter la vie. Non, Dieu vient comme un voleur. Qu'est-ce que Dieu va faire avec Abraham? Il va le mettre à l'épreuve. Il va le faire avancer plus vite, plus loin, plus fort que ce qu'Abraham avait imaginé ou ce que nous pouvons imaginer pour nous. Il ne faudrait pas penser, mes amis, qu'on va s'ouvrir un tout petit peu au bon Dieu et puis que le reste du temps, on pourra faire comme d'habitude. Non, c'est une ouverture qui est plus profonde et qui consiste à pouvoir remettre vraiment sa vie dans les mains de Dieu. Et Abraham, apparemment, est celui qui se sépare des autres humains, en réalité. Mais Dieu vient comme un voleur, il vient comme lieu de réconciliation entre tous ceux qui étaient séparés. Et c'est ainsi que toute l'humanité est invitée à reconnaître en Abraham un père dans la foi qui vient nous apporter la bénédiction de Dieu où que nous en soyons. Et ça, c'est pour notre bonheur, c'est pour continuer véritablement d'avancer. On pourrait faire le même raisonnement avec tous les grands personnages de la Bible, avec Moïse, avec les prophètes Isaïe, avec le roi David. Tous ces personnages sont très surprenants. Mais à chaque fois, il faut se demander comment, à travers eux, Dieu est en train de nous montrer quelque chose de plus grand, de plus beau, mais de différent de ce que nous avions peut-être imaginé. Tenez, expliquez-moi, enfin, tâchons de comprendre, avant cet évangile, comme première lecture, pourquoi nous avons un oracle incroyable sur la ville de Jérusalem. Je vous le lis, c'est le chapitre 2 d'Isaïe, c'est la première lecture de ce dimanche. C'est une des visions les plus extraordinaires dont nous, que nous puissions partager dans l'Écriture. Alors, il arrivera dans la suite des jours. Ce n'est pas forcément dans les derniers temps, et c'est dans l'histoire. Tenez, pourquoi pas aujourd'hui, ce soir. Oui. Il arrivera que la montagne de la maison du Seigneur, donc on est à Jérusalem, oui. C'est une petite montagne, c'est pas très grand, se tiendra plus haut que les autres montagnes. Elle s'élèvera au-dessus de toutes les collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers, car la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. » Bon, tout le monde considère Jérusalem comme un lieu saint, un lieu important. Mais attendez. « Il sera juge entre les différentes nations et l'arbitre des peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. » Vous voyez, le premier signe de la première lecture du premier dimanche de la première année liturgique, c'est cette page que je viens de lire, donc Isaïe au chapitre 2. Eh bien voilà une illustration assez extraordinaire de l'idée que Dieu vient comme un voleur. Pourquoi ? Eh bien, regardons tout simplement ce qui se passe à Jérusalem en ce moment. Avouez que ce n'est pas brillant comme modèle. Et depuis 4000 ans qu'on connaît l'histoire de cette ville, ce n'est pas pour le meilleur qu'elle est racontée. Il y a des choses extraordinaires qui se passent, extraordinairement belles, mais il y a quantité de choses extraordinairement moches, violentes, injustes, qui sont commises. Et voilà, mes amis, le signe du voleur, voilà par le signe de Jérusalem, telle qu'elle est, telle qu'on la connaît dans l'histoire, avec ses hauts et ses bas, avec sa lumière et ses ténèbres, c'est comme ça que Dieu se donne à connaître. Et c'est une histoire extrêmement mouvementée. Eh bien, il faut apprendre, Jésus nous dit, soyez vigilants, pour ne pas vous laisser surprendre par le voleur. Il s'agit de bien comprendre les leçons que Dieu nous donne, y compris par l'histoire. Histoire ancienne, mais aussi l'histoire contemporaine. Admettons, et je crois que c'est un des grands enjeux du temps de l'Avent, admettons que l'histoire, qui commence par la volonté de Dieu, se termine aussi par la volonté de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est bien le maître de l'histoire. Il sait ce qui se passe. Il connaît le bien au fond des cœurs. Il connaît aussi la méchanceté qui peut venir aussi dans les cœurs. Et que fait Dieu ? Ben, il ne fait pas comme les hommes, justement. Et les hommes sont très prétentieux. Regardez dans l'histoire contemporaine, en ce moment, dans les problèmes de guerre que nous avons un peu partout dans le monde, il y a ceux qui prétendent éradiquer tous les terroristes ou bien faire une paix éternelle. Mais qui peut faire de l'éternel? Il n'y a que Dieu. Mes amis, quand quelqu'un se prend pour Dieu, quand quelqu'un veut faire du définitif, eh bien, soyons sur nos gardes. Méfions-nous. N'écoutons pas ces discours qui sont pleins de mensonges. On pourrait même parler de blasphème. Et c'est ça qui engendre des guerres qui n'en finissent pas et des injustices permanentes. Comment Dieu, lui, fait-il? Il mène une histoire lente jusqu'au bout en cherchant à éveiller les consciences, en cherchant à transformer les cœurs, les rendre intelligents, les rendre bienveillants, les rendre lucides. Et il s'agit de reconsidérer l'histoire, y compris au milieu de ceux qui souffrent parce qu'ils sont au centre même de toutes ces guerres, par exemple, et de toutes ces injustices, de retrouver le sens de la patience et de la contre-offensive. C'est-à-dire ne pas admettre comme une fatalité que l'injustice, la pauvreté ou la violence soient le lot de notre humanité. Non, Dieu nous dit, notre humanité est marquée par une déficience, nous appelons ça tout simplement le péché originel. Il y a une sorte de manque en chacun d'entre nous et dans l'humanité tout entière. Et Dieu vient au secours de ce manque pour combler ce qu'on pourrait appeler la case qui nous manque et qui reconstruit chacun et l'humanité tout entière de manière juste et bonne. Il y a de l'espérance. Et je termine en revenant justement sur cette béatification qui aura lieu le 13 décembre prochain, donc dans 15 jours. Pourquoi des jeunes ont-ils été envoyés en 1944 dans les camps de travail, voire même dans des camps de concentration? C'était non pas pour faire des sabotages et enrayer la machine infernale qui broyait l'humanité tout entière et l'Europe en particulier. C'était pour retrouver par le témoignage, par le catéchisme, par la prière, par la lecture de la Bible, c'était de retrouver le goût de la dignité et la conscience d'un plan historique où Dieu s'engageait lui-même en étant l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et celui qui vient au secours de notre faiblesse à chaque étape. C'était pour ne pas céder à l'ennui, à la faiblesse, à la propagande, au mensonge. Et comment ça s'est terminé? Eh bien, par une conscience retrouvée de sa dignité et de pouvoir résister aux mensonges et à la violence, mais c'est passé aussi, et il ne faut pas se laisser surprendre par le voleur, c'est passé aussi par le martyre de dizaines et de centaines et de milliers de jeunes gens qui savaient parfaitement vers quoi, à quoi ils allaient s'exposer et qui ont été l'objet d'une violence et d'une extermination, non pas totale, mais extrêmement forte. Et c'est ce risque qui est reconnu aujourd'hui comme ayant été compris, non pas comme un malheur que Dieu envoyait, mais au contraire, une force dont il témoignait que ce n'était pas simplement leur force à eux, mais c'était la force que Dieu venait nous donner. Et au fond, ces témoins qui vont être définitivement retenus dans 15 jours sont encore des témoins de cette alliance, c'est-à-dire de cette présence bienveillante de Dieu qui fait que nous ne sommes pas seuls. Le trésor peut-être de l'identité chrétienne, de l'identité des baptisés, c'est de pouvoir vivre dans le monde avec cette conscience que Dieu vient au secours de notre faiblesse. Et cette foi en Dieu qui vient à nous, elle peut se manifester tout simplement par des éléments de solidarité, d'amitié, de présence les uns envers les autres. Et nous retrouvons au fond, comme première bonne nouvelle, oui, croire en Dieu et aimer Dieu, mais aimer son prochain et croire que la dignité humaine est dans les mains de Dieu et que Dieu l'amène jusqu'à sa perfection. Voilà, j'espère que ces deux lectures, donc Isaïe au chapitre 2, Matthieu au chapitre 24, cette idée de poser des questions au texte, gardons l'idée principalement, Dieu vient comme un voleur. Il faut que nous donnions un peu de consistance à cette idée surprenante dont Dieu vient nous surprendre, laissons-nous surprendre et éclairons-nous les uns les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon dimanche et bon temps de l'Avent.